traitera de la théorie de l'évolution. Il y a un aspect un peu historique aux différentes idées qui sont liées au concept de l'évolution, du vivant bien sûr. Et ensuite, je développerai un aspect extrêmement important au niveau historique, que vous ignorez le plus souvent, ou vous méconnaissez, et dont je vais vous donner un éclairage directement lié à ma condition de scientifique qui travaille dans le domaine de l'évolution. On pourra reparler après de différentes choses, mais voilà les grands thèmes que je vais développer. Donc, la théorie de l'évolution du vivant, elle est marquée par un certain nombre de personnages. Donc, vous avez tous en tête notre ami Darwin, ici, à deux étapes de sa vie, qui a marqué de façon assez forte la théorie qu'on présente actuellement de néo-darwiniste. Et donc, on en parlera et on expliquera un petit peu à quoi ça l'a conduit. Vous avez ici son cousin, Galton, qui a une influence aussi assez grande. On verra en quoi. Il a démarré un mouvement intéressant qui sera dans l'objet de la deuxième partie de l'exposé. Et j'ai quand même mis un Français, Lamarck, pour son importance, souvent négligée et décriée, sur la naissance de la théorie de l'évolution à la mode de Darwin. Alors, tout d'abord, il faut replacer le contexte historique. La théorie de l'évolution, ou les théories de l'évolution, je parlerai presque plutôt de transformisme, ces théories, la date clé, c'est évidemment 1859, avec le livre qui est écrit par Charles Darwin sur l'origine des espèces, et vous voyez que finalement la date est assez récente dans l'histoire de l'humanité, puisque on parle d'évolution finalement que depuis 150 ans, en tout cas de la même façon qu'on l'envisage à peu près actuellement, et Charles Darwin est né il y a 200 ans, un peu plus de 200 ans maintenant. Donc c'est quelque chose d'assez récent, et il faut comprendre aussi que si ces idées ont mis beaucoup de temps à parvenir, à apparaître, c'est certainement qu'il y a un grand nombre de difficultés conceptuelles qu'il a fallu franchir pas à pas. Et ça, c'est quelque chose de très important dans l'histoire des sciences, de comprendre que des idées comme celles-ci ne peuvent pas apparaître d'un seul coup. Il faut pas mal de tâtonnements, pas mal de réflexions, pas mal de discussions, et évidemment l'émergence de concepts scientifiques qu'on pourrait considérer comme modernes. Alors, Jean-Baptiste Lamarck est donc français, et lui, je le mets toujours parce que il a une importance assez grande dans les théories d'évolution, et il a écrit un livre qui s'appelle « Philosophie zoologique » qui date de 1809. Donc ce livre a un peu plus de 200 ans, et autrement dit, Lamarck a écrit son livre l'année où Darwin est né. Alors ça, c'est très important de replacer ce contexte historique. Alors bon, je vais faire des généralités, je vais vous expliquer des petites histoires que vous pouvez comprendre même si vous n'avez aucune culture scientifique. Et vous allez comprendre ce sont des notions indispensables pour avancer dans le concept d'évolution. Alors tout d'abord, une notion extrêmement intuitive, la génération spontanée. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, si vous prenez un morceau de viande que vous mettez dans un bocal, que le dit bocal est ensuite recouvert par ce genre d'ustensile, vous voyez après 5 jours apparaître de très nombreux asticots. Donc, dans la vision populaire des gens, un morceau de viande laissé à l'abandon peut donner naissance à des organismes, en l'occurrence des asticots, que les gens savaient, ensuite qu'ils deviendraient des mouches. Alors, bien sûr, vous savez que cette génération spontanée n'existe pas. Mais il faut bien comprendre que de l'Antiquité jusque finalement il n'y a pas si longtemps que ça, eh bien c'est une idée qui paraît assez évidente à l'observateur s'il fait une observation superficielle. Et ça, c'est très important, cette notion de génération spontanée, car elle induit forcément de gros problèmes de conception de transformisme et d'évolution. Alors, ça, c'est une idée des clés. Alors, on pensait que les asticots donc, naissaient spontanément du fromage ou de la viande, notamment du veau. Ne me demandez pas pourquoi, mais le veau donnait plus des mouches que les autres viandes. Et puis, il y avait aussi, par exemple, des souris qui pouvaient naître de chiffons ou de grains de blé. Ce que je dis là est une croyance C'est les gens le pensaient vraiment. Ce qui peut peut-être vous surprendre, mais c'était vraiment cru. Autrement dit, par les scientifiques de l'époque, on parle de avant le XVIe siècle, avant le XVIIe siècle. Et on pense, et ça c'est un peu plus récent, si vous mettez quelques plantes dans de l'eau, notamment dans un vase dans lequel vous mettez des roses, vous voyez apparaître une eau qui devient de plus en plus trouble. Lorsque vous regardez cette eau au microscope, vous voyez apparaître en fait un certain nombre de petits organismes, des organismes unicellulaires. Et
il a fallu...
Ça marche, oui. Il a fallu quand même pas mal de temps pour comprendre que cette notion de génération spontanée n'était pas réelle. Mais elle est intuitive. C'est-à-dire quand on voit, on observe la nature, ça nous semble assez logique. Alors au Moyen-Âge, mais avant le Moyen-Âge aussi, on croyait à beaucoup de choses. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important. On croyait à des êtres imaginaires. Attention, les bestiaires du Moyen-Âge mélangeaient aussi bien des animaux qui existent vraiment que ces animaux légendaires. Alors, vous avez la fameuse... Bon, j'ai pris deux exemples archi-classiques que vous connaissez tous, la licorne. Alors, la licorne, ça ressemble un peu à un cheval, ça ressemble un peu à une chèvre. C'est ni l'un ni l'autre et ça n'existe pas. Et vous avez aussi les sirènes. Alors, les sirènes, là encore, c'est important. Vous savez que cette notion de sirène est probablement... peut-être une mauvaise vision des marins, mais plutôt des récits qui sont édulcorés après leur retour, où cet animal-là est un lamantin, et le groupe des lamantins, bon, ça ressemble grossièrement à une sirène, et ça a pu probablement faire naître cette légende. Ce qui est important, c'est que dans l'idée des gens, ce genre d'animaux existe, d'accord, au Moyen-Âge. Et il y a encore des choses bien plus extraordinaires qui sont crues par ces gens au Moyen-Âge. C'est la notion de transformisme. Et là, cette notion de transformisme, quand on parle d'évolution, on fait du transformisme. Ça veut dire quoi, le transformisme? Ça veut dire qu'une espèce peut se transformer en une autre. Et donc, cette notion de transformisme, il ne faut pas croire qu'elle date de Darwin. Elle est aussi âgée que l'homme existe. On croit depuis très longtemps à ce que des espèces puissent se transformer. Alors, j'ai pris un exemple. Un exemple que moi, je trouve assez étonnant. Et je vais vous présenter l'exemple et vous l'expliquer. D'accord ? Alors cet exemple, c'est l'exemple de l'arbre à canard. Alors, il paraît, en tout cas il y a certains moines qui l'ont écrit et donc qui ont dit « j'ai vu l'arbre à canard ». Il est très rare en France, il n'y en a pas à Aurillac, vous comprendrez pourquoi. Mais on en trouve en Écosse. En gros, c'est ce que raconte l'histoire de ce moine. Et qu'est-ce qu'il dit ? Ben, en fait, c'est un arbre qui a des feuilles. Ces feuilles, elles ont deux possibilités. Elles tombent sur le sol, comme les feuilles de n'importe quel arbre. Et puis, lorsqu'elles tombent sur le sol, elles donnent des canards. Et puis, lorsqu'elles tombent dans l'eau, elles donnent des poissons. Ceci est écrit par ce qu'on pourrait considérer comme étant des scientifiques du Moyen-Âge. Cette histoire, elle est bizarre. Mais ça veut dire que les gens pensent qu'une espèce peut donner une autre, voire plusieurs autres espèces dans des conditions différentes. C'est bien du transformisme. Et quelque part, c'est quelque part de l'évolution. On passe d'une espèce à une autre. Donc, la première idée que je veux passer, c'est que cette idée d'évolution est une idée, de transformation en tout cas, est une idée extrêmement ancienne dans l'histoire de l'homme. Simplement, on est très loin de Darwin, évidemment. Alors pourquoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'arbre à canard? Là, je vais vous l'expliquer. Un peu comme je vous ai expliqué les sirènes. Alors, en fait, il existe un oiseau qu'on appelle la bernache. Enfin, il existe plusieurs espèces de bernaches qui sont sortes d'oies sauvages, et ces oies, jamais, alors ça existe, on en trouve sur tout le littoral, il y en a plein en Bretagne, il y en a un petit peu partout en Europe de l'Ouest, mais cet oiseau, on ne l'a jamais vu nidifier. C'est-à-dire que, notamment au Moyen-Âge, on n'avait jamais vu un œuf, un nid de bernache. La raison est très simple, mais c'est une raison d'un scientifique moderne qui apparaît là, c'est que on s'est rendu compte que ces oiseaux qui venaient passer l'hiver dans nos contrées allaient se reproduire l'été dans la toundra, dans des zones extrêmement difficiles d'accès. Donc en fait, dans ces régions-là, qui étaient très très peu connues par les scientifiques, notamment au Moyen-Âge, parce que personne n'allait jusque-là, eh bien, on n'avait jamais vu de nid de bernache. Donc, tout le monde sait que les oiseaux viennent d'un œuf. Mais quand on n'a jamais vu l'œuf, bon, ça pose un petit problème. Ces oiseaux apparaissent soudainement sur nos côtes par milliers. Il y a probablement donc une explication à rechercher. Et l'autre pan qui vous manque, c'est l'existence d'un animal qu'on appelle les anatifs. Tiens, en anglais, ça s'appelle barnacle. Et cet oiseau-là, il s'appelle barnacle. C'est le même mot en anglais. Ah, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est-à-dire qu'en anglais, vous avez les traces de la légende que je vous explique là. Ça veut dire que c'était vraiment cru par les gens, au point que ça a imprimé, c'est imprimé dans le langage. Pas en français. Mais dans les... Alors en français, on le retrouve dans le vieux français, on va dire. Nous, on appelle ces animaux, en gros, là ce sont des anatifs, mais on a des noms qui ressemblent un petit peu. Alors, vous voyez cet animal, il est ici présenté, il s'agit d'un animal qui vit sur les objets flottants. Alors, lorsque vous êtes au Moyen-Âge, il y a assez peu de sacs plastiques, de débris plastiques. Donc, qu'est-ce qu'on voit flotter dans les mers? Des bouts de bois. Maintenant, vous trouvez des anatifs accrochés à n'importe quoi, un morceau de bateau, enfin ce que vous voulez, une corde. Donc, les gens avaient l'habitude, c'est très courant, de voir échouer des branches qui avaient flotté dans la mer et qui arrivaient sur les littorales avec ces animaux fixés. Alors, comment ça marche? Cet animal est fixé par la tête. Il y a une forme de long pédoncule au bout desquels on reconnaît une partie de l'organisme avec des appendices qui sortent de l'animal. Eh bien, quand vous regardez à la fois la couleur, là ici, vous voyez la disposition, donc c'est des groupements massifs, hein, avec beaucoup beaucoup d'animaux, vous voyez, imaginez que ceci c'est le cou du futur oiseau, que ici vous avez le corps et ici les futures plumes. C'est ça le fond de cette histoire d'abracanard. En fait, les gens trouvaient des débris de bois recouverts de ces feuilles qui étaient des animaux, et les gens pensaient que ces feuilles, là, c'était probablement les fameuses feuilles qui allaient donner soit des canards, auxquels ils ressemblent très superficiellement, soit même des poissons. Alors ça, par contre, bon, j'imagine qu'ils pensaient que l'animal pouvait ensuite se disperser dans l'eau. Bien sûr, c'est complètement faux. Ça n'a rien à voir. Mais c'est important de comprendre à quel point on a pu croire à des choses aussi extraordinaires. Un autre point parallèle, c'est l'influence de la religion catholique. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. D'abord, ce n'est pas que la religion catholique, mais bon, j'ai limité mon discours à la religion catholique. Et d'autre part, en fait, il y a des fondements plus anciens qui apparaissent, notamment chez certains Grecs. C'est-à-dire que, en gros, pour simplifier, il y avait certains savants grecs qui étaient transformistes, c'est-à-dire qu'ils croyaient qu'une espèce pouvait donner une autre espèce. Ça voulait dire que le monde n'était pas fixe, il pouvait changer. Et il y avait des Grecs très importants, Platon, Aristote, qui pensaient que, en fait, les choses étaient fixes et stables et ne changeaient pas. Autrement dit, que les espèces ne pouvaient pas changer comme tout le reste d'ailleurs. Cette forme d'essentialisme, on le retrouve d'une certaine façon, en partie dans la religion catholique. Donc, en gros, vous avez un certain nombre de personnes qui imaginent des histoires diverses, mais de transformation, ceci depuis longtemps, qu'on retrouve dans nos légendes moyenâgeuses, et puis il y a un certain nombre d'intellectuels qui pensent que le monde ne change pas. Il y a d'autres choses qui sont propres à la religion catholique. Bon, d'abord, l'idée que Dieu a créé le monde. Ça, c'est quand même une idée très importante et que, évidemment, qui va engendrer de nombreuses réticences à une partie des théories transformistes, à un moment donné. Mais il y a aussi des histoires assez intéressantes. L'Arche de Noé illustre deux, trois points qui sont importants. L'homme est... finalement entouré d'un certain nombre d'organismes dont il dépend pour vivre. Et donc, dans tout cet imaginaire, la notion que l'homme vit avec de nombreuses espèces, qu'il a un rôle dans la nature, s'illustre bien dans l'Arche de Noé. Parce que finalement, l'Arche de Noé, c'est quoi? C'est l'idée que l'homme a une extrême importance dans la gestion d'une vie, et que l'homme a sauvé... un très grand nombre d'espèces en les mettant dans une arche. Alors, ça va très loin. On a une idée de la taille, on a une idée du nombre d'animaux qu'il a fallu mettre, etc. Cela dit, on ne connaissait pas le Nouveau Monde. Donc, pour notre ancien monde, on peut mettre tous ces animaux. Et aussi, c'est une idée assez intéressante, c'est qu'à partir d'un couple, on puisse régénérer une espèce. Il y a autre chose qui est extrêmement importante, mais qui n'est pas propre à la religion catholique, ni qui est quelque chose d'extrêmement important dont je dois vous parler, c'est la place de l'homme, de l'humanité, dans ce qui l'entoure. L'homme se donne une place extrêmement importante. Alors, en gros, ça va être résumé par l'échelle des êtres, qui a été déclinée par de nombreux auteurs, mais qui est une idée assez courante. C'est-à-dire, si vous demandez aux gens dans la rue, ils vont demander leur si vous êtes des animaux. Ils vont vous répondre, non, je suis un homme, je suis au-dessus des animaux. Et souvent, ils vont vous dire, mais les végétaux, c'est en dessous des animaux. Ça, c'est l'échelle des êtres. C'est important de parler de l'échelle des êtres. Parce que, en fait, on imagine Dieu au-dessus de tout. Donc ça, c'est très important. On a l'homme qui a une position très importante, qui est au-dessus du monde animal, au-dessus du monde végétal, et le bas de l'échelle, c'est le monde minéral, inanimé. Et entre l'homme et Dieu, vous avez le sacré, les anges, les archanges, etc. Ceci est... ça va peut-être vous surprendre, mais finalement, cette idée définie comme je viens de le faire, vous n'y croyez certainement pas, mais il vous en reste des traces. Tous, moi le premier. Cette échelle des êtres, on l'a tous à un moment ou à un autre. Mais cet animal-là, il est forcément inférieur à nous. Est-ce que cette position-là, elle a un sens au point de vue évolutif dans la science de l'évolution actuelle? Donc l'homme se donne une place importante par rapport au reste, par rapport au reste du monde qui l'entoure. Et notamment, dans la religion catholique, c'est quelque chose d'extrêmement appuyé. Alors maintenant, je vous ai expliqué un certain nombre d'histoires comme ça, et on va commencer à parler du transformisme tel que vous l'avez reçu dans vos enseignements. Alors, l'expérimentation est quelque chose qui apparaît à la Renaissance. On commence à s'intéresser réellement à ce qui nous entoure. Au Moyen-Âge, souvent, on se contentait d'une observation tout à fait rudimentaire, voire quasiment, on n'avait pas recours à l'observation. Souvent, on allait voir ce que les anciens grecs avaient écrit. Par exemple, s'il y avait une querelle pour savoir combien de dents avait un cheval, on ne pensait pas aller voir la bouche d'un cheval. En général, on allait voir ce que tel grec avait écrit. À la Renaissance, les choses ont complètement changé. On va remettre au goût du jour l'observation. On va s'intéresser, on va faire des expérimentations. Une expérimentation que je vais vous présenter, elle me paraît importante, c'est celle de Francesco Redi. Francesco Redi, c'est un élève de Galilée. Et lui, il fait une expérience extrêmement simple. En 1660, enfin, oui, elle est simple. Hein. En 1668, il met des morceaux de viande dans des bocaux. Certains de ces bocaux sont fermés, d'autres ne sont pas fermés. Certains sont fermés de façon étanche, d'autres avec des gaz qui laissent passer l'air. Et qu'est-ce qu'il démontre? Il démontre quelque chose qui est évident, pour vous, j'espère en tout cas. C'est que si vous laissez le bocal ouvert, les mouches viennent pondre sur la viande. Si vous fermez le bocal, les mouches ne peuvent pas venir pondre. Et donc, en fait, l'asticot qui apparaît dans la viande n'est pas issu d'une génération spontanée, mais il est là parce qu'un adulte est venu pondre des œufs. Cette démarche expérimentale est assez précise, très claire, et démontre de façon tout à fait évidente qu'il n'y a pas de génération spontanée d'asticots. Donc ça, c'est l'illustration de ce qu'on peut voir. En fait, en quelques heures, la mouche a pondu ses œufs sur la viande. En quelques jours, les asticots se développent, et vous voyez, au bout de 5 jours, il ne reste rien de votre viande. Et dans l'expérience de Francesco Redi, en fait, il voit les mouches pondre sur la gaze, c'est-à-dire que les mouches étaient attirées par l'odeur de la viande, et ceci à des centaines de mètres, voire des kilomètres, et elles viennent pondre sur la gaze en espérant que les asticots puissent la traverser. Et la gaze est suffisamment serrée pour que les asticots ne traversent pas et donc ne contaminent pas la viande, mais ils voient les œufs sur la gaze, ce qui est une démonstration absolue de sa théorie. Alors cette expérience, elle démontre une chose, c'est que la génération spontanée n'existe pas. Et quel est le lien entre la génération spontanée et l'évolution? Eh bien, il y a des liens à plusieurs niveaux. Tout d'abord, si on imagine que des organismes apparaissent en permanence, ça c'est la première constatation, on ne peut pas imaginer une théorie évolutive. Ça n'a pas de sens, puisqu'en fait les animaux apparaissent en permanence. Donc ça, en fait, un des aspects de démontrer que la génération spontanée n'apparaît pas, c'est déjà de laisser la possibilité aux animaux d'évoluer. Mais ça a un autre aspect aussi, c'est que ça prouve que l'inanimé ne se transforme pas en animé et que, a priori, la mouche ne donnera que des mouches et rien d'autre. Donc, ces expériences vont pouvoir laisser apparaître un transformisme moderne, mais vont aussi être fortement utilisées par un certain nombre de contemporains de Reilly pour dire, eh bien, cet essentialisme qui est de dire que rien ne change, hein, qu'une espèce est figée, eh bien, on le voit très bien, il n'y a pas de création de nouveauté, ça a été créé une seule fois, et le monde ne change pas. Vous voyez, c'est deux aspects de ce genre d'expérience, et donc, on va avoir ce qu'on appelle le fixisme, c'est-à-dire une façon de voir les choses où les espèces ne se transforment pas, elles sont apparues une fois, et ne se transforment plus. Et dès le XVIIIe siècle, vous allez avoir une opposition entre la majorité des scientifiques qui sont fixistes, cette notion-là est en plus bien soutenue par l'Église, en fait, et un certain nombre d'autres scientifiques, un peu tout d'abord un petit peu isolés, qui vont penser que les espèces peuvent quand même évoluer, que le monde n'est pas si fixe qu'on le pense. Alors, Linné, c'est le fondateur du système binominal, c'est-à-dire le système qu'on utilise encore lorsqu'on désigne une espèce en latin. On lui donne un nom de genre et un nom d'espèce, Homo sapiens par exemple, pour d'autres espèces. Et lui était un fixiste assez fort, bien que dans certains de ses textes, on trouve des interrogations. Linné est suédois, il est très croyant, donc il est évident que ces interrogations ne vont pas très loin, mais étant donné qu'il était de formation botaniste, il connaissait un certain nombre de variants de plantes et il se posait des questions. Il a même eu l'idée que peut-être qu'au moment de la création initiale, Dieu n'avait peut-être créé que les genres. C'est quand même assez extraordinaire pour Linné qui est considéré comme un fixiste. En France, on a un très bon fixiste, c'est Cuvier. Alors lui, c'est presque un dictateur de la biologie en France, et lui, c'est un fixiste pur, il n'a jamais écrit qu'une espèce pouvait se transformer. En France, on a eu, donc à cette époque, un scientifique qui s'appelle Pierre de Maupertuis, qui était mathématicien, philosophe, comme à l'époque c'était assez courant, au siècle des Lumières, et Maupertuis écrit un ouvrage extrêmement étonnant, très intuitif, hein, il n'y a pas vraiment d'expérimentation, mais il écrit une théorie transformiste qui est remarquable, puisqu'il imagine déjà un mécanisme pour expliquer l'hérédité. Donc c'est assez étonnant. Et puis, un autre transformiste. Alors, il y a eu des oppositions extrêmement fortes. Maupertuis, c'est pas le scientifique que vous connaissez le plus. Lui, il a démontré, par exemple, que les pôles étaient aplatis au niveau de la Terre. Donc, il a fait des calculs pour démontrer ça. Il est plus connu pour ça, en fait, en tant que mathématicien. Et il a eu des oppositions très fortes, notamment Voltaire, qui se moquait de lui carrément de ses travaux, en considérant que c'était un peu farfelu, si vous voulez. Il y a un autre scientifique assez étonnant, c'est Erasmus Darwin. Erasmus Darwin, c'est le grand-père de Darwin, et il a eu des textes transformistes, c'est-à-dire qu'il évoquait la possibilité que les espèces se transforment en une autre au cours du temps. On n'est plus dans des théories farfelues en imaginant que une feuille d'un canard, on est dans quelque chose qui s'apparente plus à ce que vous appelez l'évolution. Alors là, il faut parler d'un homme important, c'est Lamarck. Lamarck a tardivement écrit son livre sur l'évolution, la philosophie zoologique, et il a une conception de l'évolution qui a beaucoup de mal à passer jusqu'à vous, à peu près correctement. Souvent, on traduit Lamarck par ses travaux sur le fait que certains caractères acquis puissent se transmettre à la génération suivante. En fait, ça, même Darwin, il y croyait. Et il faut remettre la marque où il est. La marque, il a écrit des travaux qui n'étaient pas bons. On peut considérer que ses travaux physiques étaient mauvais. Et par contre, son travail sur l'évolution est assez intéressant. Alors, je vous explique sa conception. Il imagine qu'il y a génération spontanée. La génération spontanée que Reddy avait invalidée pour les mouches, les souris, etc., avait encore cours les gens pensaient encore à cela pour les petits animaux. Même s'il y avait déjà eu des expériences qui démontraient que ce n'était pas si évident que ça, c'était extrêmement controversé. Et donc, Lamarck, comme ses contemporains, croyait que on pouvait avoir une génération spontanée des infusoires, c'est-à-dire ces petits animalcules qui naissent dans l'eau lorsqu'on met un peu de foin. Et ensuite, ce qui est intéressant ici, il faut lire cette espèce d'arbre, hein, c'est pas vraiment un arbre, du haut vers le bas, c'est-à-dire que le temps s'écoule comme ça. Et on voit apparaître, donc d'après lui, de façon spontanée, un certain nombre d'organismes, des infusoires, des polypes, des méduses, des vers, qui donneront par reproduction sexuée des animaux semblables à eux. Et puis au cours des générations, il va y avoir des événements qui vont modifier un petit peu la forme de l'organisme. On est vraiment dans une théorie transformiste, évolutionniste si vous voulez. Mais lui, il voit ça donc, dans un temps assez long. Et il imagine qu'en fonction des conditions du milieu, des incidents, il y a des transformations progressives et que les organismes peuvent prendre des voies différentes, morphologiquement, se modifier de façon différente. Mais il imagine l'évolution comme un tapis roulant, c'est-à-dire qu'on va aller vers nous, on ne le dit pas vraiment, là en l'occurrence sur cette figure, c'est un certain nombre de mammifères, mais que cette évolution se fait au cours du temps. Pour que son système fonctionne, il faut absolument que la génération spontanée existe, car sinon, évidemment, on viderait la case du en haut. Or, on voit ces organismes existants. Donc, lui, il a besoin de la génération spontanée pour expliquer son système. Et pour la transmission des caractères, comme je vous l'ai dit, il imagine que les animaux se modifient en travaillant leurs organes. Si, par exemple, ils mangent des feuilles sur un arbre assez haut, c'est l'image que vous avez sans doute de la mare, eh bien, l'animal qui allait devenir la girafe étire son cou, en l'étirant tellement qu'il va s'allonger un petit peu, et ça va être transmis à sa descendance. Mais ne réduisez pas les théories de Lamarck à juste cela. Celui qui va révolutionner les sciences de l'évolution, c'est Darwin. Alors Darwin, c'est un homme assez étonnant, qui a fait de très nombreuses choses dans sa vie, et en général, quand il les faisait, c'était extrêmement bien fait. En gros, il a été novateur dans pas mal de domaines, même si vous le connaissez que pour ses travaux sur l'évolution. Il a fait plein d'autres choses étonnantes. Et Darwin, quand il était jeune, il a eu la chance de faire un voyage dans le Beagle, qui est un bateau qui a fait le tour du monde. Alors, le tour du monde, dans le milieu du 19e siècle, c'est pas n'importe quoi. C'est un voyage qu'on pensait faire en 2-3 ans, mais qu'il a fait en 5 ans. D'accord ? Et il est à bord en tant que naturaliste, donc il est censé récolter des spécimens, étudier les sciences naturelles. Au cours de ce voyage, donc, il voit beaucoup de choses, il découvre et invente pas mal de choses. Et il y a une chose qui va marquer particulièrement son travail, c'est le fait qu'il récolte un certain nombre d'oiseaux dans les îles Galapagos. Les Galapagos constituent un archipel volcanique qui sont donc d'âge assez récent, qui présente des populations de pinsons présentant des morphologies et des us différents. Certains vivent plus dans les arbres, mangent des insectes, d'autres vivent plus par terre, mangent des graines. Et lui, il en a collecté un peu dans toutes les îles et a été surpris de voir qu'il y avait des variants d'une île à l'autre alors qu'elles s'étaient séparées d'un brin de mer, et qu'au sein d'une même île, les oiseaux se ressemblaient autant. Il les a ramassés, il les a collectés, il les a ensuite donnés un naturaliste anglais qui était spécialisé des oiseaux, qui a dit qu'il y a 13 espèces de pinsons dans les îles Galapagos. Et probablement que l'étude de ces oiseaux était essentielle dans la genèse de sa théorie. Donc sa théorie, je ne veux pas en faire trop de détails, mais elle est présentée en 1859 dans ce livre. Et vous avez ici, en fait, une esquisse, une réflexion avant qu'il écrive son livre, sur son cahier. Vous voyez Hatting, et qu'est-ce qu'il pense? Il pense qu'il y avait une espèce initiale, un pinson initial, qui venait d'Amérique du Sud, qui a colonisé cette île, et qu'ensuite, vous avez eu une divergence progressive des pinsons, d'abord au niveau de population, puis ensuite d'espèce. Et ça, c'est un événement majeur. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'il a travaillé pendant extrêmement longtemps, puisque son voyage du Beagle, il l'a fait dans les années 1830, c'est la fin de son voyage à Galapagos en 1835, mais il sort son livre en 1859, donc il a eu le temps de penser. Il a été un petit peu bousculé. Donc voilà les fameux variants de pinson que lui croyait être une seule espèce et que son collègue a désigné comme étant de 13 espèces. Comment on peut présenter ça? Je pense que vous avez fait en cours la phalène du bouleau. La phalène du bouleau, vous savez quoi? Vous savez quoi sur cette phalène du bouleau? Il s'agit d'un lépidoptère qui vit la nuit et qui se repose le jour sur des troncs d'arbres. La couleur naturelle de la phalène du bouleau, telle qu'elle était connue au XVIIIe siècle en Grande-Bretagne par exemple, c'est cette couleur-là. Cet oiseau se repose sur les bouleaux, comme son nom l'indique, et les bouleaux ont à peu près la couleur que le papillon a, et vous voyez ici, le papillon est ici, on le voit pratiquement pas. C'est pas un exemple que Darwin a utilisé, c'est pour vous expliquer sa théorie avec quelque chose que vous connaissez déjà bien. Et vous voyez ici apparaître un mutant qui était connu dans les collections d'entomologistes britanniques avant la révolution industrielle et qui valait extrêmement cher. Donc les collectionneurs achetaient ces phalènes noires qui étaient issues d'une mutation dominante. Et en fait, vous imaginez qu'un papillon de cette couleur, sur un tronc de cette couleur-là, allait avoir un problème avec les prédateurs de ces phalènes du bouleau qui sont un certain nombre d'oiseaux qui chassent à vue. Donc évidemment, Darwin, avec des exemples différents, va considérer que les animaux porteurs d'un caractère vont être plus ou moins favorisés dans un environnement et vont être une proie, ou en tout cas avoir des soucis s'ils sont défavorisés. Dans ce cas précis, s'ils sont consommés, ils ne pourront pas transmettre leurs gènes à leur descendance. Alors évidemment, Darwin ne parle pas de gènes. Lui, il considère qu'en fait, cet animal qui a cette couleur anormale va se faire manger, ne pourra pas se reproduire, n'aura pas de descendance. Et par contre, celui-ci a plus de chances de survivre dans cet environnement. Et donc, il y a une sorte de lutte pour la vie. Ceux qui présentent un certain nombre de caractères favorables dans un milieu donné vont être aptes à se reproduire et à persister. Les autres seront éliminés. Ça, c'est sa théorie, qui est basé donc sur ce qu'on appelle la sélection naturelle. C'est un point extrêmement important. Ce qu'apporte Darwin essentiellement dans sa théorie, c'est la notion de sélection naturelle. Finalement, le fait qu'une espèce puisse se transformer au cours du temps, c'est pas Darwin qui l'a amené, c'était déjà Lamarck, et déjà même avant Lamarck, des gens comme Berthuis l'avaient déjà imaginé. Mais Darwin explique, à partir de très nombreuses explications, que c'est la sélection naturelle qui est à l'origine de l'évolution des formes et que progressivement les animaux se transforment dans un environnement donné et qu'il y a une part de hasard qui fait qu'un animal dans un environnement donné pourra mieux survivre qu'un autre. Vous connaissez la phalène du bouleau parce que en général on vous a montré qu'après la révolution industrielle, il y avait de la suie qui venait contaminer les arbres de certaines régions de l'Angleterre industrielle. Ces arbres devenaient sombres. Cette mutation qui était extrêmement rare, qui apparaissait spontanément dans la nature, qui était contre-sélectionnée, a été ici sélectionnée, car les arbres devenant noirs, les phalènes de couleur noire, devenait cette fois-ci invisible aux yeux des prédateurs, alors que la couleur originelle de la phalène les rendait vulnérables sur ce tronc noir. Cet exemple montre bien que l'environnement a une importance, que dans un environnement donné, on peut être sélectionné, et dans un autre, on peut être contre-sélectionné, c'est-à-dire on peut être éliminé. Darwin s'est basé sur quelque chose d'extrêmement important pour l'émergence de sa théorie de la sélection naturelle. Il s'est basé sur les travaux des économistes qui montraient qu'il y avait une lutte pour la vie, pour les populations et pour l'industrie, si vous voulez, pour simplifier. Lui, il l'a transféré aux animaux. Et donc ça veut dire qu'il était dans un contexte intellectuel assez favorable à l'émergence d'une idée comme la sélection naturelle. Et voilà les points importants de la sélection naturelle. Lorsqu'il a publié son livre, il était contraint parce que, en fait, Wallace avait les mêmes idées que lui, un autre scientifique contemporain de Darwin avait les mêmes idées, et donc il a été un petit peu contraint à publier rapidement son livre. La petite histoire, on ne sait pas exactement pourquoi Darwin a traîné autant pour écrire son livre, alors que probablement, dès les années 1800, avant même 1840, il devait en avoir à peu près le fondement. C'était quelqu'un qui était d'abord souvent malade, donc souvent alité, ça c'est quand même un premier point, génial mais souvent malade, donc ça ralentissait ses travaux, et d'autre part il était marié avec une femme qui était extrêmement croyante, et on peut penser qu'il avait extrêmement peur de la controverse qu'aurait créé son livre dans le milieu protestant, et probablement que ceci l'a incité à ne pas divulguer trop vite ses travaux. Mais quand Wallace, puisqu'on était dans un contexte assez favorable intellectuellement à l'émergence de ces nouvelles idées, a eu à peu près des idées comparables sur la sélection naturelle, quand il s'en est rendu compte, là, il a publié rapidement son livre. Ils ont fait une déclaration commune, voilà, c'est lui-même en 1858, et le livre a été sorti en 1859, et vendu extrêmement rapidement. Donc il y a eu un succès extrêmement important. Et évidemment, la controverse est très importante par rapport au milieu, notamment religieux, qui refuse l'idée que, en fait, l'homme descend un petit peu de son piédestal, même si Darwin ne parle pas de l'homme dans son premier livre, il en parlera bien plus tard, dans les années 1870. Très rapidement, on comprend bien que si les espèces peuvent se transformer, l'homme est lui-même une espèce qui est issue d'animaux, ce qui effondre un système de pensée et de conviction extrêmement fort, notamment, enfin pas qu'en Grande-Bretagne, mais partout en Europe. Et rapidement, on le fait apparaître sous forme mi-singe, mi-Darwin, parce que, en fait, une partie de la population refuse absolument de croire que l'homme peut être une espèce comme une autre. Vous avez fait en cours, je pense, la naissance de la génétique. Alors vous allez me dire quel est le rapport. Eh bien, il manque quelque chose d'extrêmement important à la théorie de Darwin. Il n'explique pas comment les caractères sont transmis à la génération suivante, c'est-à-dire il n'explique pas comment ce qui est favorable à l'individu dans un contexte donné est transmis à sa descendance. Il ne l'explique pas parce qu'il ne sait pas l'expliquer, il n'a pas les arguments. D'ailleurs, ça sera sa grande faiblesse, et jusqu'à sa mort, il pourra regretter de ne pas avoir d'éléments à donner aux gens qui ne savent pas plus que lui comment sont transmis les caractères héréditaires, mais qui lui disent « mais votre théorie ne fonctionne pas, car vous n'avez pas le mécanisme de transmission des caractères héréditaires ». Et ça, cela ne peut apparaître qu'avec la génétique. Alors, la génétique est apparue progressivement avec un certain nombre de croisements, beaucoup plus tôt que Mendel, on faisait des croisements, on savait déjà que les F1 étaient homogènes, mais on ne comprenait rien au F2, c'est-à-dire la première fratrie, celle de, on croise par exemple deux melons, on a un hybride qui présente des caractères stables, mais lorsqu'on croise ces hybrides entre eux, on ne comprend pas la distribution des caractères. On voit bien apparaître les caractères parentaux, donc ça veut dire que c'est pas Mendel qui l'a montré ça, mais en revanche on ne comprend pas mathématiquement le mécanisme. Et je ne vais pas l'expliquer en détail, mais Mendel, qui était religieux, a étudié des croisements entre de nombreuses structures de pois, de graines, de fleurs, de cosses, de tiges. Il a fait des lignées pures. Alors, Mendel est un scientifique très très mal reconnu de son temps. On sait que Darwin a lu les travaux de Mendel, enfin en tout cas il était au courant des travaux de Mendel vers Hoffman, donc on le sait, mais en fait on n'est pas dans le même concept de pensée, et Darwin ne voit absolument pas ce que peut apporter ses travaux. Au contraire, Mendel lui dit que ses travaux démontrent la fixité de l'espèce, car il retrouve toujours les caractères parentaux et qu'on ne voit pas apparaître de nouveautés. Ce qui est intéressant dans Mendel, c'est qu'il démontre très rigoureusement, il fait des croisements extrêmement rigoureux, il a une démarche précise, une démarche expérimentale qui n'est finalement pas tant compris que cela par ses contemporains, et il aura une opposition assez forte. Au départ, l'idée de Mendel, c'est de permettre l'amélioration des plants. D'accord ? Et lui, il en profite donc pour démontrer qu'il y a une certaine fixité. Il lui manque quelque chose à Mendel, c'est la notion de mutation. Il n'a pas cette notion. Il faut attendre pas mal d'années encore pour qu'un certain nombre de généticiens voient, c'est Hollandais, De Vries, qui voient des premières mutations qui sont des fausses mutations. C'est comme ça. Mendel a triché un peu dans certains croisements. On s'en est rendu compte 40 ou 50 ans après. Il s'est un peu arrangé pour certains croisements. Eh bien, De Vries, lui, il croyait avoir vu des mutations. Il s'était trompé, ce n'était pas des mutations. Il les a appelées mutations. On a découvert qu'après, que ce n'était pas une vraie mutation. Mais il a dit, voilà, il peut y avoir des changements brutaux. Et pour l'instant, aucun lien avec la théorie de Darwin, évidemment. Et c'est les règles de distribution des caractères au cours des générations qui sont réétablies par ces trois personnes, De Vries, Lorenz et cet Autrichien. Et en fait, ils reconnaissent à Mendel l'antériorité de leurs travaux, puisqu'en fait, ils retrouvent les lois de Mendel. Alors, ils l'ont fait chez des plantes. On a un généticien en France, donc c'est facile. Il n'y en a qu'un à connaître, c'est Queneau. Il n'y en a pas d'autres, ou pratiquement pas d'autres. En France, la génétique est passée complètement à côté. Le seul était à l'université de Lorraine. Il a fait les croisements de souris que probablement certains avaient déjà fait au 18e, ou 19e, pardon. Mais il a appliqué les règles qu'il avait lues dans les travaux des botanistes aux animaux. C'était le premier avec la souris en 1902. Ensuite, évidemment, on voit apparaître d'autres groupes, ici l'américain Morgan, qui va, dans le prolongement des travaux des premiers généticiens, notamment Queneau, il va chercher un modèle facile d'utilisation, il va prendre la drosophile, qui est un animal à génération courte, qu'on peut obtenir en très grande quantité et facilement faire des croisements. En 1904, il obtient le premier mutant, et entre 1904 et 1913, ça va très 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 vite. Il constate qu'on a les chromosomes polyténiques géants dans les larves de drosophile. Il fait très rapidement, à partir de croisements et d'observations sur les chromosomes, il fait les premières cartes chromosomiques. La première, enfin c'est un de ses collaborateurs, date de 1913. Ensuite, qu'est-ce qu'il advient ? Il advient que il y a un désaccord profond entre les premiers généticiens et les premiers darwiniens. Ceci est dû à deux approches différentes. Les successeurs de Darwin, notamment Galton, dont on parlera après, essayent de démontrer ce que Darwin avait observé sur les populations, notamment sur les populations humaines, en faisant ce qu'on appelle la biométrie. Et donc, ils ont une recherche de variations de caractère, de mesures, au cours du temps. Et ça, c'est extrêmement différent de l'approche des généticiens qui font des croisements rigoureux et qui ne voient pas apparaître une discontinuité progressive. Pour qu'il y ait un consensus entre ces deux approches, il faut attendre les années 30 à 40 où vous voyez apparaître la théorie synthétique de l'évolution. À la génétique formelle que vous connaissez apparaissent la génétique des populations qui va réconcilier à la fois la génétique formelle mais aussi la théorie de l'évolution présentée par Darwin avec l'effet de la sélection naturelle. En fait, les généticiens les premiers disent que si la sélection naturelle existe, c'est pas la plus importante, car la plus importante, c'est la mutation. C'est pour ça qu'il y avait opposition entre les premiers généticiens et les darwiniens de l'époque. Lorsqu'on a compris que la génétique des populations expliquait tout cela, réconciliait tout ça, on a pu faire une théorie synthétique. Où on en est de l'étude de l'évolution des animaux 150 ans après, je vais passer rapidement. Maintenant, bon, ça fait un bond, hein, entre les années 30 à 40 et actuel. Qu'est-ce qu'on fait qu'on ne faisait pas avant? Eh bien, maintenant, on a accès au génome. Et là, j'étais obligé de vous en dire un mot. Les connaissances deviennent de plus en plus énormes en ce qui concerne le décryptage des génomes. C'est-à-dire que entre, je vais même dire, entre l'année où j'ai été recruté maintenant, le nombre de génomes complets connus a explosé au point que c'est ingérable. C'est-à-dire que les données augmentent plus vite que notre capacité d'analyse, mais de très très loin. Et on est face à une explosion de données. Cela dit, les gènes qu'on peut décoder, qu'on voit apparaître, nous permettent de reconstituer les phylogénies. Donc c'est en cela que je voulais vous en parler, que les néo-darwiniens ont voulu reconstruire l'histoire du monde vivant. Ils ont donc fait des phylogénies. Ils les ont d'abord fait avec des caractères morpho-anatomiques, puis ensuite, à l'ère de la génétique moderne, la génétique moléculaire, ils ont utilisé les séquences nucléotidiques. Et là, évidemment, le bond est considérable. Vous imaginez des animaux qui ne se ressemblent pas, pour lesquels on peut établir l'homologie. On peut toutefois imaginer leur relation de parenté, retracer leur relation de parenté grâce à des études basées sur les gènes. Alors, je vais passer cette partie. S'il y a des questions, j'en parlerai plus tard. Alors, je vais faire un bond en arrière. Je vais faire un bond dans les années 1880. Galton, c'est le cousin de Darwin par son grand-père Erasmus Darwin. Bon, ça c'est un détail, mais c'est quand même une famille assez douée. Hein. Et Galton va faire naître la biométrie. La biométrie, Galton, lui, il n'est pas eugéniste, parce que le mot n'est pas encore inventé, mais il se dit darwinien social. Qu'est-ce que c'est? En gros, je vais simplifier, mais pour que ça aille assez vite, il y a un certain nombre de scientifiques qui constatent donc qu'il y a une sélection naturelle qui s'opère sur les organismes végétaux animaux et que ceci entraîne une évolution de ces organismes. Rapidement, alors que Darwin, lui, limite en fait son application là-dedans, un certain nombre de ses contemporains veulent appliquer ce qui a été vu pour les animaux à l'homme. Donc c'est d'abord le darwinisme social qui va donner en fait la sociobiologie en quelque sorte, et qui va donner l'eugénisme. Alors, beaucoup de généticiens ont participé à la genèse de ce qu'on appelle l'eugénisme. C'est basé sur deux choses. L'humanité, elle est ce qu'elle est grâce à la sélection naturelle qui s'est opérée au fil du temps sur les différentes populations qui ont évolué, qui ont abouti à l'espèce humaine. Actuellement, donc ça c'est les propos des premiers généticiens, actuellement il n'y a plus cette force de sélection sur les populations humaines, donc il y a un risque de dérive des populations humaines avec... par exemple, les lois sociales ou le fait qu'on puisse garder des individus porteurs de maladies qui vont se reproduire et propager des tares la communauté humaine. Bon, je simplifie, mais c'est un petit peu ça. Et en gros, les eugénistes, ils disent, bon, soit l'homme n'est plus soumis à la sélection naturelle parce qu'en gros, il a écrasé le monde qui l'entourait, mais il serait souhaitable que l'homme maintienne et prenne conscience de la disparition de la sélection naturelle pour générer une forme de sélection artificielle qui sera entretenue par l'homme pour maintenir l'humanité dans son progrès. Donc l'eugénisme, c'est une idée de progrès de l'humanité qui serait donc sous la responsabilité des scientifiques qui ont compris les lois, notamment Mendel, qui permettent qui permettent de comprendre la transmission de caractères. Et on voit ici une représentation assez éloquente où l'eugénisme, en fait, c'est ce qui va amener au progrès de l'homme au cours du temps. Et ceci représente la synthèse de toutes les sciences que l'homme a développées auparavant et montre que l'eugénisme, c'est le point de ralliement de toutes les sciences pour amener l'homme vers le progrès. C'est donc assez positif. Alors maintenant, donc les premiers généticiens sont essentiellement allemands, en tout cas sont protestants, sont allemands, américains et anglais. En gros, c'est ça. Aux États-Unis, donc, on commence à voir apparaître un certain nombre de choses intéressantes. Alors, Ada Tuke était prostituée et on a étudié sa descendance. Elle est née en 1740. Sur 92% de sa descendance, 64 de ses enfants étaient des bimentaux, 174 étaient des pervers sexuels, 196 étaient des enfants illégitimes. Bon, on est aux États-Unis, c'est protestant. Bon, 142 étaient des pauvres. Alors, être pauvre au début du XXe siècle, c'est une tare. D'accord ? C'est un problème dans la société que d'avoir des pauvres. Et 77 sont des criminels ou des meurtriers. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Mais pourquoi on laisse Ada Tuke se reproduire? Il suffirait de la stériliser pour éviter d'avoir tous ces tarés dans les populations humaines. Alors, tarés, quand je pense évidemment aux déficients intellectuels. Donc, combien ça coûte de stériliser Ada Tuke? Enfin, si on avait stérilisé Ada Tuke, ça aurait coûté 150 dollars, pardon. Ben 150 dollars, c'est rien par rapport à tous les méfaits que la descendance d'Ada Tuke a généré dans la société. Alors ça, c'est un arbre généalogique. Vous connaissez les arbres généalogiques. On ne va pas l'analyser. Je vous explique que de toute façon, je ne pourrais pas aller très loin. Là, c'est pour vous montrer que l'illégitimité est transmise d'une génération à une autre. Et alors, le petit, là, qui a 2 semaines, on sait, il est bizarre. Donc, lui aussi, il va devenir illégitime. Ça veut dire que l'illégitimité, et c'est 2 weeks, hein, 2 weeks, donc ça veut dire que l'illégitimité est transmise, c'est pas bien ça. Un autre exemple, c'est aussi un arbre généalogique, ils ont tout un tas de problèmes, comme ils sont neurotiques, pervers sexuels, alcooliques, etc. Et en plus, vous voyez, je vous fais pas de dessin, mais vous voyez ce que ça veut dire. Donc, il a été avec sa belle-fille, quoi. Donc forcément, l'enfant a été pas très conforme à ce qu'on attend. Et donc, il y a l'eugénisme, c'est quelque chose qui arrive très très fort aux États-Unis au début du XXe siècle, dans les années 20. Et on voit apparaître ce genre de bâtiment. Alors, voilà un autre document intéressant. Aux États-Unis, on a moins besoin de ça et plus de ça. Moins besoin, alors c'est moderne, hein. C'est, pour l'époque, c'est les ordinateurs les plus performants, ça clignote avec une fréquence donnée. Et cette fréquence illustre un certain nombre de phénomènes. Alors ici, toutes les 50 secondes, vous avez une personne qui va aller en prison. Toutes les 18 secondes, vous avez une personne qui aura un âge mental de 8 ans. Ici, toutes les 16 secondes, vous avez un enfant qui naît aux États-Unis. Et ici, toutes les 7 minutes 30, vous avez une personne apte à diriger, à être créatif. C'est ça dont les États-Unis ont besoin. C'est 4% de la population. Il faut favoriser la reproduction de ces gens-là et empêcher la reproduction de ceux qui sont dans cette catégorie-là. Ça veut dire que les États-Unis vont établir des lois eugéniques qui vont avoir pour objectif de stériliser les hommes et les femmes qui sont déficients, qui sont déviants, de façon à ce que leur tare ne se transmette pas. Aux États-Unis, il y a eu 64 000 stérilisations liées à ces genres de lois qui ont été la dernière annulée en 1972. Évidemment, là, je suis obligé de parler de quelque chose qui est important pour nous, c'est l'Allemagne. Les premiers généticiens sont allemands. Ou de langue allemande, ou proche, et à l'émergence d'Hitler, ce qu'il faut comprendre, c'est que les idées eugéniques, ou l'eugénisme, c'est-à-dire le fait de faire des lois qui vont réguler le devenir des populations humaines, c'est quelque chose qui a déjà cours aux États-Unis. Et évidemment, les généticiens allemands sont très forts, puisqu'historiquement la génétique est née en Allemagne, en grande partie, et ils sont très influents. Donc là, je parle bien de scientifiques, hein, parce qu'évidemment, les sociétés eugéniques sont en grande partie dirigées par des notables et des scientifiques. Et voilà ici une affiche de propagande de l'Allemagne nazie qui date, alors je pense qu'elle doit dater des années, enfin juste avant le début de la guerre, dans les années 37 ou 38, et que dit, enfin je ne suis pas germanophone, donc s'il y en a vous pourrez traduire, mais en gros elle dit, il faut, bon en gros la loi eugénique elle a été votée pour être appliquée le 1er janvier 1934, même si Hitler l'avait déjà dit 10 ans avant qu'il fallait faire aussi bien que les États-Unis. Et les Allemands ont fait beaucoup mieux, puisqu'eux, ils ont stérilisé 400 000 personnes. Et ça, c'est une affiche de propagande qui veut dire, bon, d'autres pays font de l'eugénisme, donc il faut faire que nos sociétés progressent, et donc il faut stériliser les personnes qui sont pas les personnes qui conviennent pour la future société. Là, ici, vous avez les pays de l'époque, États-Unis, Danemark, Norvège, bon, il y a la Suède, je ne sais pas si c'est la Suède, je ne vois pas trop, je suis trop près. Vous avez, alors la Grande-Bretagne, pas des lois eugéniques pas appliquées. La France, pas de frais lois géniques, puisqu'il n'y a pas de généticien, et Queneau n'était pas eugéniste. Hein. La Suisse, le premier pays d'Europe à avoir fait des lois géniques qui ont été supprimées il n'y a pas longtemps, et j'en passe, le Japon, etc. La Suède, 62 000 stérilisations avec ses lois géniques pour un pays qui fait 6 millions d'habitants. Actuellement, c'est quand même énorme. Et des lois eugéniques ont été supprimées après les États-Unis. Et l'Allemagne, donc 400 000. Mais l'Allemagne a été beaucoup plus loin. En fait, l'Allemagne voulait un nouveau peuple. Ce nouveau peuple, il fallait qu'il soit construit sur une amélioration de la race. Et c'est un petit peu ce qui va séparer en fait, les eugénistes américains et les eugénistes allemands. C'est que les eugénistes non allemands, hein, c'est que eux, ils veulent l'amélioration de l'humanité en favorisant les croisements entre personnes qui ont des capacités à améliorer la société, donc les gens qui sont riches, les gens, les scientifiques, etc., et diminuer les autres. En Allemagne, c'est plus racial. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent une amélioration du peuple, mais avec un concept beaucoup plus racial que les Américains, au sens où eux, ils veulent une race pure. C'est la grande différence qu'il y a entre les deux formes d'eugénisme. C'est-à-dire que bon, les Américains, il y a quand même un fond de racisme, hein, un peu partout à l'époque, dans les pays occidentaux, mais il est très très fort en Allemagne, et l'idée de supprimer... D'abord d'empêcher la reproduction d'une partie de la population, puis ensuite de supprimer les personnes adultes arrivent. Et donc là, c'est une campagne qui dit, voyez, cette personne-là, il faut l'euthanasier. C'est quand même un grand pas qui a été franchi là avec cette propagande nazie, donc où on a un programme d'euthanasie. Et vous savez là maintenant, c'est pas la peine de vous faire un cours d'histoire, que les Allemands n'ont pas uniquement euthanasié les personnes qui étaient déficientes mentalement, puisque leur concept racial les a incités à éradiquer purement et simplement les Tziganes, les Juifs, qui étaient sur les territoires allemands ou occupés ensuite par le Reich. Ça veut dire qu'il y avait des scientifiques allemands qui étaient favorables aux lois eugéniques. L'eugénisme est né de l'esprit de scientifique. Ça veut dire que très rapidement, après la Deuxième Guerre mondiale, les généticiens se sont retirés des sociétés eugéniques. Le grand journal américain d'eugénisme a changé de nom, car il était devenu impossible d'être eugéniste après la Deuxième Guerre mondiale, vu ce que les Allemands avaient fait en appliquant cette idée d'améliorer l'humanité, puisque ça a amené un génocide. Maintenant, on peut quand même s'interroger sur... ça veut dire quoi ? Ça veut dire... On peut s'interroger sur le rôle des scientifiques dans l'évolution de la société. C'est un premier point. Je pense que les premiers eugénistes, qui étaient les premiers généticiens, n'étaient pas des personnes qui pensaient faire du mal à l'humanité. Mais c'était simplement des personnes qui croyaient bien faire. Ensuite, il y a des... Ça, c'est une première chose. Donc, le rôle du scientifique dans l'évolution de la société est quand même important. Et il ne faut pas se voiler la face, il y avait des scientifiques nazis. Quoi. Et d'autre part, on peut aussi s'interroger sur est-ce qu'il y a encore de génisme actuellement ? Est-ce que cette espèce de folie qui a été de stériliser des centaines de milliers de personnes parce qu'ils n'étaient pas convenables, est-ce que ça existe encore ? Eh bien, vous pouvez faire vos recherches. Parce que ça, c'est quelque chose qui est important dans l'évolution de la société. Moi, je pense qu'il serait judicieux que vous fassiez des recherches là-dessus pour vous rendre compte par vous-même que bien, le génisme, quand vous voulez choisir le sexe de votre enfant, c'est une forme de génisme. Vous allez influencer votre descendance. Alors, vous allez voir ce qui se passe en Chine sur le nombre de femmes par rapport au nombre d'hommes. Vous allez voir que donc, ça existe. Il y a aussi des idées de type... eugénique qui sont appliquées encore extrêmement récemment. Allez voir ce qui s'est passé au Pérou dans les années 90, où on a stérilisé des centaines de milliers de personnes pauvres pour éviter que les bidonvilles se remplissent. Mais le problème, c'est qu'au Pérou, les personnes pauvres sont des Amérindiens. Donc quand on stérilise des centaines de milliers d'Amérindiens, l'effet, c'est une distorsion ensuite dans les populations à venir. Ce sont des questions... qui sont, je pense, du domaine de tout le monde. Tout le monde doit réfléchir à ce genre de questions, sachant qu'il y a un grand spectre derrière qui était ce que certaines personnes ont pu faire des sortes de génétiques. Juste pour conclure, pourquoi les eugénistes, ils se trompent ? Ils se trompent d'une chose très 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 simple. D'abord, l'intelligence, soit vous avez plus de chances d'avoir probablement un enfant intelligent si vous êtes intelligent. Mais c'est pas simple. Vous n'avez pas un gène de l'intelligence, sinon ça se saurait plus longtemps. Non, c'est pas simple. D'abord, il faut être capable de mesurer l'intelligence. Et ça, c'est un vrai problème. Et d'autre part, quand bien même cela existerait, à quoi pensaient les premiers eugénistes ? Finalement, il faudrait des cerveaux, des gens qui sachent compter vite. Dans les années 30, on avait besoin de personnes qui comptent vite, qui sachent faire des calculs compliqués. Mais est-ce que ça serait utile dans notre société actuelle ? Si on avait favorisé les gens qui calculent vite, si c'était possible, est-ce que ça nous servirait ? Mais on a les ordinateurs maintenant, ces gens-là. Ça sert à rien. Il faudrait mieux des créatifs. Et si vous favorisez les populations, si c'est possible, vous allez les sélectionner sur des critères arbitraires qui pourraient très bien rendre complètement inapte la société du demain. Car vous ne savez pas ce que va devenir la société. Et de ce point de vue-là, si on avait pu suivre les eugénistes, on se serait trompé lamentablement en sélectionnant des critères, des caractères qui n'auraient pas d'intérêt dans la société actuelle. Donc, c'est au point de vue intellectuel, c'est biaisé parce que la société a des besoins divers, la diversité est probablement plus importante que l'efficacité dans un domaine donné. On sait par exemple que certaines maladies génétiques favorisent les populations humaines dans un contexte donné, par exemple la drépanocytose. On aurait pu éliminer tous les gens drépanocytaires. Ceux qui sont hétérozygotes, qui possèdent l'allèle qui donne la maladie, sont beaucoup plus résistants au paludisme. C'est un exemple très simple. On élimine les gens qui sont drépanocytaires, vous allez éliminer une bonne partie de l'Afrique. Parce qu'ils ne résisteront plus au paludisme. Voilà. Je vous remercie, je pense qu'il y aura des questions. Donc, je suis à votre écoute.